Já temos quórum, vamos dar início à nossa reunião e cumprimento todas e todos e um cumprimento muito especial e as boas-vindas ao Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Stéphane Séjourné, responsável pela pasta da prosperidade e estratégia industrial. Seja bem-vindo, Sr. Vice-Presidente, é para nós um grande prazer e uma honra recebê-lo na Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República e podermos trocar impressões sobre temas tão importantes e os desafios que se colocam à Europa nestes domínios. O Sr. Vice-Presidente, obviamente, tem uma agenda muito sobrecarregada e, portanto, peço às senhoras e aos senhores deputados que se cinjam ao seu tempo de palavra. Sem mais delongas, vamos então dar início. O Sr. Vice-Presidente vai fazer uma intervenção inicial, como é hábito, como é da tradição, e o Sr. Vice-Presidente dispõe de 10 minutos para o efeito. É evidente que terá alguma tolerância, porque nós sabemos respeitar e receber bem os nossos convidados. Faça favor, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado. O português é muito fraco para fazer esta audição em português. Por isso, vou usar a tradução para falar minha língua materna. Muito obrigado, Presidenta. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les députés. E, peut-être, pour commencer, vous dire que c'est un honneur et toujours un plaisir de pouvoir discuter avec les parlementaires nationaux. Je propose systématiquement maintenant aux parlementaires nationaux d'avoir une discussion lors de mes déplacements. C'est peut-être un espace de discussion politique qui n'a été souvent sous-investi par la Commission européenne, mais qui, du fait du contexte économique, politique et géopolitique, est de plus en plus pertinent, je pense, pour les commissaires européens et le vice-président, notamment à la stratégie industrielle et à la prospérité économique de l'Union européenne que je suis. Je ne vais pas parler trop longtemps, puisque, évidemment, les questions sont l'objet de cette audition, et je vous propose d'avoir ce dialogue franc et y compris pédagogique sur notre stratégie européenne, peut-être pour vous résumer les choses. Depuis l'attaque russe en Ukraine, depuis la guerre des tarifs américaines, depuis les tensions commerciales avec la Chine, nous avons l'obligation collective de recréer en quelque sorte un modèle économique européen qui à la fois est attaché aux valeurs européennes, c'est-à-dire d'un continent ouvert au monde, un continent qui sait commercer avec le monde, un continent qui aussi se transforme et se modernise et qui est à la pointe des technologies, et en même temps un continent qui prend en compte la fermeture des autres modèles économiques, le protectionnisme ambiant au niveau international, la faiblesse du droit international, que ce soit commercial, sur les organisations internationales de santé. Je prenais un exemple avec vos collègues français de l'Assemblée nationale, mais la France n'a pas réussi à voter une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies depuis maintenant plusieurs années, du fait que ces organisations internationales sont totalement bloquées. Et donc nous devons prendre en compte cette situation géopolitique et économique pour pouvoir rebâtir un modèle économique européen qui soit, en quelque sorte, et qui permette la croissance économique en Europe et qui en même temps soit moins naïf sur un certain nombre de volets commerciaux. Je vais commencer par les deux réformes d'ouverture que nous sommes en train d'opérer, notamment en ce qui concerne les accords commerciaux et le renforcement du marché intérieur européen. Sur les accords commerciaux, vous le savez, nous avons entrepris de nombreuses démarches avec nos partenaires économiques en Europe. Je pense notamment à l'Amérique latine, puisque nous devrions conclure le Mercosur d'ici quelques semaines maintenant, et la présidente de la Commission est en train de finaliser l'ensemble des points juridiques pour pouvoir conclure autour du mois de décembre cet accord commercial. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous y sont attachés après 20 ans de discussion. Nous avons également entrepris des policy reviews avec l'ensemble de nos partenaires internationaux. Je pense au Japon, au Canada, au Mexique. Et puis nous ouvrons d'autres marchés à l'international avec des accords commerciaux en Asie notamment et en Inde sur lesquels on devrait avoir des éléments très positifs dans les prochaines semaines. Nous faisons ça pour diversifier nos exportations au moment où les deux grandes puissances, Chine et États-Unis, ont quand même relativement fermé leur marché à l'international. Et nous souhaitons également que l'industrie européenne, que les entreprises européennes puissent, dans ce cadre-là, trouver de nouveaux marchés à conquérir également. Je pense, quand je vous évoquais l'Inde, c'est 1,4 milliard de consommateurs potentiels, avec aujourd'hui des droits de douane qui sont à peu près à 150% pour les biens et les services européens. Vous voyez le gap que nous pouvons franchir avec un accord entre nos deux continents, et c'est l'objet de du premier travail que nous effectuons avec mon collègue Maro Sefcovic et la présidente de la Commission. Le deuxième travail que nous effectuons est aussi le renforcement du marché intérieur, puisque une partie de la réponse économique à la fermeture de grandes économies à travers le monde est aussi interne à l'Europe. Et vous le savez, au Portugal, mais comme en France ou comme en Allemagne, les entreprises nationales ont souvent privilégié l'expatriation en dehors des frontières européennes et aller chercher d'autres marchés à l'international plutôt que d'investir le marché européen. Pourquoi ? Parce que nous avons 27 règles différentes que le marché européen. C'est un marché de 450 millions de consommateurs qui néanmoins est aujourd'hui entravé par de nombreuses barrières sectorielles. C'est pour cela que nous avons décidé deux principaux objectifs. Le premier, c'est d'identifier les 10 plus grosses barrières économiques du marché intérieur à la Commission européenne. Nous avons appelé ça les « terrible 10 » pour pouvoir les identifier. Ces 10 barrières ont des conséquences économiques importantes pour l'Union européenne, mais sont surtout des perspectives de croissance économique pour les entreprises européennes et notamment pour les entreprises qui viennent de pays dont le marché domestique n'est pas aussi important que la France ou l'Allemagne, par exemple. Je pense notamment au marché portugais. Ces 10 barrières, c'est un travail de tous les jours puisque c'est également votre travail et c'est une responsabilité partagée que nous avons entre les parlements nationaux et la Commission européenne pour pouvoir modifier la réglementation nationale et supprimer des barrières dans les marchés nationaux. C'est pour ça que j'ai entamé une réflexion pays par pays, État membre par État membre, et j'enverrai dans les prochaines semaines et les prochains mois des recommandations très précises par pays pour retirer de la législation nationale et construire, en quelque sorte, le marché intérieur. C'est un travail des ministres et des parlements nationaux, mais il me semblait aussi important que nous puissions avoir cette discussion entre nous. Le deuxième travail que nous effectuons sur le marché intérieur, c'est notre capacité à construire des marchés qui aujourd'hui n'existent pas. Je pense au marché des télécoms, je pense au marché de l'électricité. On en parlera probablement avec une compétence qui est aujourd'hui 100% nationale, mais un marché qui est 100% européen. C'est le paradoxe de ce marché. Et puis, y compris faciliter les échanges de biens et de personnes à travers un certain nombre de marchés. Les télécoms en sont un, et nous aurons également comme gros programme de travail le marché des capitaux, qui doit permettre aux capitaux de circuler beaucoup plus facilement en Europe. Responsabilité de la Commission européenne à présenter des textes législatifs au Parlement européen et aux États membres à partir du mois de décembre. Notre agenda est donc très restreint et nous avons accéléré l'union des marchés de capitaux, l'énergie et les télécoms dans ce cadre-là, et un travail partagé avec les parlements nationaux et les gouvernements pour casser les barrières nationales et donc de la réglementation nationale entre nous. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le minimum que nous devons faire dans le cadre géopolitique et commercial que nous connaissons. De l'autre côté, pour être totalement honnête avec nous, il nous faut également construire les éléments de protection du marché intérieur. Vous le savez, depuis maintenant un certain nombre d'années, le marché européen est probablement un des marchés les plus ouverts au monde, ce qui nous crée des énormes problématiques de concurrence déloyale, notamment avec des produits qui viennent sur le marché européen, qui ne sont pas produits dans les mêmes conditions que normatives et réglementaires que l'Union européenne et que nos entreprises dans l'Union européenne. C'est pour ça que sur la table, nous mettons une proposition de réforme des douanes où nous proposons de créer une agence des douanes, un fichier centralisé des douanes qui nous permet également à la Commission européenne de savoir ce qui rentre et ce qui sort du marché européen. Plus de contrôles, une uniformisation des contrôles, la capacité de faire des contrôles flash également dans les ports et dans les aéroports. Je vais vous donner un exemple, mais vu que nous sommes qu'entre nous, il ne sortira pas d'ici. Entre un port portugais et un port dans le nord de l'Europe, que je ne citerai pas, les contrôles sont très différents. Et donc vous avez un produit pour 2000 qui sont rejetés d'un port portugais après des contrôles douaniers et un produit sur 2 millions qui sont rejetés pour un port que je ne citerai pas dans le nord de l'Europe. Ça vous démontre que soit il y a beaucoup de produits défectueux qui arrivent au Portugal, soit il n'y a pas de contrôle dans le port du nord et je privilégie l'option B dans ce cadre-là. Tout ça pour vous dire que le travail est énorme d'harmonisation de nos contrôles et que nous devons, y compris pour une question d'équité commerciale entre nous, pouvoir travailler sur ce volet-là. Le dernier volet que je voudrais vous évoquer avant de répondre à vos questions, c'est évidemment notre réforme notre agenda de compétitivité européenne, puisque tout ça nécessite également d'avoir un agenda de compétitivité interne à l'Union européenne. La Commission a proposé déjà un certain nombre de propositions de simplification administrative et bureaucratique depuis le début de ce mandat. Nous sommes à 6 omnibus de simplification sur 6 secteurs différents envoyés au Parlement et à la Commission. Et aux États membres. Dans ce cadre-là, nous allons continuer notre effort de simplification des règles de procédure, de la bureaucratie, mais nous souhaitons aussi garder le cap d'une stratégie de décarbonation de l'économie, d'abord parce que c'est une stratégie économique en elle-même. Réduire nos dépendances sur le fossile, c'est aussi réduire notre balance commerciale qui est négative sur ce volet-là. Nous dépensons plus de 400 milliards d'euros d'achats de carburants fossiles par an dans l'Union européenne. C'est 400 milliards d'euros qui pourraient être utilisés pour d'autres choses, d'autres politiques publiques en Europe. Et donc notre stratégie de décarbonation est également une stratégie économique dans ce cadre-là. Nous souhaitons la poursuivre tout en donnant des flexibilités du fait du contexte économique que nous connaissons. Ces flexibilités, on les connaît, on en a déjà fait et on continuera à les faire. Je pense notamment aux amendes sur les voitures et sur les constructeurs automobiles qui devaient être appliquées en 2025, que nous avons décidé de supprimer au vu du contexte géopolitique et économique. Je pense aussi aux standards de CO2, où nous travaillons également sur des technologies qui pourraient être autorisées autour de la date de 2035 pour éviter un choc trop violent de la voiture électrique au moment du passage de l'obligation européenne à la voiture toute électrique. Pour ça que le maître mot aujourd'hui est plutôt au pragmatisme, à une espèce d'équilibre entre ouverture et protection. Mais je suis évidemment heureux et je serai très heureux de vous entendre sur l'ensemble de vos questions et de vos remarques par rapport à l'agenda de la Commission. Dernier point, Madame la Présidente, nous aurons deux chantiers importants. Le premier, c'est les matières premières critiques européennes qui sont devenues le nouveau pétrole et un conflit énorme puisque nous sommes dépendants à 90-100% des importations chinoises sur à peu près toutes les matières premières critiques et nous avons des gros problèmes d'approvisionnement en Europe. Et donc il faudra accélérer notre diversification et la production de matières premières critiques en Europe. Et deuxième grand chantier, Madame la Présidente, c'est une loi d'accélération industrielle que nous proposerons dès le mois de décembre qui doit permettre de simplifier le permitting, de simplifier les procédures, mais également d'introduire dans le droit européen de la préférence européenne et du contenu local dans la révision des marchés publics et dans un certain nombre de secteurs privés. Voilà, je m'arrête là puisque je pourrais être très long, mais je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui et ravi d'avoir vos interrogations et vos questions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, por esta intervenção muito clara, muito completa, que abriu muitas perspectivas para as senhoras e os senhores deputados poderem agora questionar e fazer sugestões ao Sr. Vice-Presidente. E só um breve comentário em relação à diversificação das fontes de fornecimento energético. É um assunto muito antigo, tivemos a falar de ter estado no Parlamento Europeu e eu fazia parte da Comissão do Ambiente e era um tema recorrente e urgente já nessa altura. E é lamentável é que se tenha andado tão lentamente e que tenhamos sido confrontados agora com uma situação de emergência. Mas isto, enfim, é um comentário pessoal. Vamos agora ouvir os representantes dos grupos parlamentares. Quero informar que esta reunião está a ser transmitida em direto pelo canal do Parlamento e que, portanto, é bom que todos tenhamos isso em conta. E, posto isto, em nome do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Stéphane Séjourné. Bem-vindo ao nosso Parlamento. Consideramos que o Sr. Vice-Presidente tem uma das pastas mais importantes para o nosso futuro coletivo do projeto europeu. De facto, ouvimos falar na reindustrialização da Europa há algum tempo. É um tema que foi introduzido, mas que hoje é extraordinariamente urgente e dele depende, em grande parte, a nossa sobrevivência enquanto projeto europeu. Começaria por lhe questionar o tema da economia circular e da necessidade da Europa olhar para a reciclagem, para o aumento de vida útil.
C'est un problème 3. C'est un problème d'énergie puisqu'il n'y avait plus de batterie.
J'attends un peu. Muito obrigado. Estava a referir-me ao tema da economia circular e da necessidade da Europa olhar para a reciclagem como também um instrumento da sua autonomia estratégica. Porque se nós conseguirmos prolongar o período de vida útil daquilo que utilizamos e dar-lhe até outras funções, nós estamos a diminuir a necessidade de matérias-primas que vêm de fora e também estamos a contribuir na linha do nosso posicionamento estratégico na dimensão do verde. Isso era uma primeira questão, se o programa que tem gizado contempla e dá especial enfoque à reciclagem, à economia circular, que do nosso ponto de vista é um tema que não tem tido o desenvolvimento e o progresso que é desejado. Em matéria de matérias-primas, há um aspecto muito importante. Como disse o Sr. Vice-Presidente e bem, a Europa é dependente do exterior, em particular, por exemplo, nos chips eletrónicos, nos semicondutores, e, neste caso, tivemos inclusive o Sr. Ministro Alemão dos Assuntos Europeus a dizer que uma ruptura nesses chips para a indústria automóvel alemã, com tudo o que isso implica. E, portanto, nós temos verdadeiramente um problema de dependência que é urgentíssimo. Isto já não é um problema industrial, é um problema de geopolítica, é um problema de defesa, é um problema de guerra híbrida. Houve alguns países que já há muitos anos percebendo isso, o caso de Israel, por exemplo, em que criaram, na altura, uma indústria forte de semicondutores porque não podiam estar dependentes do exterior. E nós, a Europa, temos a fragilidade nos semicondutores como temos no software. Os grandes fabricantes de software ou estão nos Estados Unidos da América ou começam a estar na Ásia. E isso é um problema que nós não temos conseguido endereçar e, sem os endereçarmos, nós enfraquecemos a nossa posição e o nosso poder na geopolítica mundial. Eu dou-lhe o exemplo das terras raras, em que neste momento nós vemos a China a discutir com os Estados Unidos, mas a Europa não aparece nesse jogo nem neste tabuleiro de xadrez. Isto é gravíssimo e por isso voltamos a dizer que colocamos em si uma grande esperança e uma grande atenção, nomeadamente no programa que a Europa vai apresentar, que é o Resource EU, para, em princípio, responder a este grande desafio. Outra questão que nos parece de extrema importância, a assimetria do tratamento económico. Quer dizer, se a Europa, um país membro da União Europeia, quiser ir para a China fazer uma fábrica, provavelmente não consegue. Os entraves são de tal ordem, formais na China, que não é viável. O oposto, no caso europeu, com grande facilidade nós acolhemos qualquer investimento chinês. Há investimento chinês que é positivo, que é bom, que desenvolve os países e são bem-vindos. Mas esses investimentos devem também contribuir para ativamente incorporar saber dos nacionais e dos membros da União Europeia e haver uma interligação e uma cooperação profícua de saber para que isto seja verdadeiramente um investimento que interessa a ambos. Criar uma infraestrutura industrial na Europa somente para montar componentes que vêm em caixotes da China, isto tem pouco valor acrescentado e, no fundo, pode ser um cavalo de Troia para vencer eventuais barreiras alfandegárias. A Europa tem que ter uma visão equilibrada e ser equilibrada é olhar para os investimentos que cá se fazem e ter regras, pelo menos equivalentes, aos que quer e pode fazer nos países de origem desses investimentos. Termino desejando a maior felicidade na sua função e missão, porque muito do seu sucesso depende do nosso e da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente. Faça favor.
Merci, Monsieur le Député. Aller dans votre sens en disant que les matières premières sont en réalité les guerres sur les matières premières, c'est également une forme de guerre hybride potentielle et nous sommes dans un élément de faiblesse aujourd'hui puisque 100% de nos importations sont décisives pour nos chaînes de production européennes et que depuis les annonces du 9 octobre de la part des Chinois, je suis de plus en plus convaincu que ce sujet apportera et tension diplomatique et tension commerciale, mais aussi insécurité économique pour l'Union européenne. Depuis le 9 octobre, la partie chinoise a décidé de faire deux restrictions d'export de nos matières premières. Une qui consiste à limiter et à réduire les licences d'exportation des matières premières en Europe. Et donc nous avons l'incapacité aujourd'hui de faire des stocks stratégiques, l'incapacité aussi d'avoir des approvisionnements réguliers et des risques de coupures dans nos approvisionnements. La deuxième décision qu'ils ont prise, c'est de nous obliger à demander l'autorisation d'exportation en dehors de l'Union européenne pour des biens qui ont été produits en Europe avec des matières premières chinoises. On est presque dans un moment de coercition économique, si on regarde les choses de manière très factuelle. C'est pour cela que la présidente de la Commission a décidé de me demander un plan d'urgence ressources EU que vous évoquiez. Ce plan, il sera présenté très rapidement au mois de novembre. Il intégrera l'ensemble des contraintes que je viens de vous évoquer, une stratégie de diversification de nos approvisionnements très rapide, une augmentation des budgets et des moyens pour pouvoir produire en Europe une grande partie de nos matières premières, une stratégie de circularité, parce que vous avez entièrement raison, il faut maintenant garder notre matière première en Europe. On a des difficultés à la faire venir sur le territoire européen et par contre on l'exporte systématiquement pour le recyclage. Et donc il nous faut créer des filières et donc avoir aussi des instruments commerciaux qui interdisent l'export de matières premières. C'est un changement total d'attitude européenne et c'est un tabou européen qu'il faut faire tomber, mais qui, je pense, est nécessaire dans la période. Dernier point, nous aurons également à travailler en recherche et développement, puisque la meilleure technologie pour se rendre moins dépendant des matières premières, c'est de ne pas l'utiliser. Et un certain nombre d'entreprises travaillent dorénavant sur des stratégies, des moteurs électriques et des technologies nouvelles qui ne nécessitent pas ces matières premières. Et je pense que là-dessus, l'Europe doit créer ses propres éléments de technologie pour éviter d'être totalement dépendante. Donc vous voyez, les quatre volets seront pris en compte, l'export, la production interne, la circularité, la recherche et le développement sur les nouvelles technologies pour pouvoir produire moins. Mais c'est maintenant vital, puisque quand je regarde ce que les entreprises nous disent, des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de production pourraient fermer, et pas dans 6 mois. On parle de quelques semaines. Donc le sujet est là, il faut que l'Europe en prenne conscience et je pense que la présidente, en annonçant un plan qui est en quelque sorte un peu comme un plan Repower avec le gaz, à la différence, c'est que le gaz, nous avions les capacités de diversifier très rapidement. La matière première, nous sommes dépendants à presque 100%. Donc nous partons de très loin. Dernier point sur les conditionnalités d'investissement en Europe. Oui, dans l'accélérateur industriel, je souhaite proposer au Collège des commissaires des conditions d'accès au marché européen pour les entreprises et les investissements étrangers. Nous avons besoin des investissements chinois en Europe, néanmoins, ils doivent faire fonctionner la chaîne de valeur européenne, nos entreprises européennes, nos TPE et nos PME européennes. Et ce que je vois trop souvent, ce sont des entreprises chinoises qui arrivent, des fois même avec des salariés chinois. Et il y a des cas où plus de 2000 salariés chinois arrivent sur un site pour produire. Même pas pour produire, pour assembler des composants qui viennent de Chine. Valeur ajoutée zéro pour l'économie européenne, et donc nous devons là-dessus agir le plus rapidement possible et donc mettre des conditions d'investissement, et donc c'est travail des entreprises et travail avec la chaîne de valeur et en même temps gain de croissance avec des composants européens dans la production des entreprises chinoises.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Patrícia Almeida. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Bem-vindo, Sr. Vice-Presidente. Tal como o senhor, irei também fazer a minha apresentação em português, a língua materna. Tem sob a sua alçada um conjunto de pastas cruciais para a economia europeia. São cruciais e identificamos, desde logo, a legislação que visa aumentar a produção de tecnologias limpas dentro da União Europeia, o Net Zero Industry Act, porque vão ao encontro da redução e da dependência da Europa em relação à China e aos Estados Unidos. Parece-nos também sorrajamente importante a questão da revisão das regras da contratação pública, uma vez que pretendem reforçar a segurança de abastecimento, mas também simplificar regras e reduzir os encargos burocráticos que tanto têm asfixiado as nossas empresas. Para além disso, sabemos também que têm em preparação o European Competitiveness Fund, que é um fundo que pretende centralizar e simplificar o financiamento de inovação, tecnologias estratégicas e competitividade industrial. Parece-nos aqui que a ideia será evitar a fragmentação atual, onde as pequenas e médias empresas enfrentam, de facto, programas dispersos e com requisitos, subajamente, e demasiado complexos. A grande questão é que se os países periféricos e as PMEs portuguesas conseguirão ter acesso real ou se o dinheiro acabará efetivamente e sobretudo nas grandes indústrias franco-alemãs em vez de chegarem aos países periféricos como é o caso de Portugal. Depois parece-nos também muito importante a questão do apoio às pequenas e médias empresas e às microempresas com a promessa de simplificação regulatória, melhoria no acesso a financiamento e eventual criação de novas categorias de financiamento para empresas de pequena e média dimensão, as denominadas small mid-caps. Para Portugal, há dois eixos centrais: o peso da regulação europeia sobre as pequenas e médias empresas e as microempresas, que já enfrentam custos elevados com a transição verde e digital, e o acesso equitativo a financiamento dos programas europeus. Neste sentido, Sr. Vice-Presidente, existem algumas questões e aproveitando o facto de estar no Parlamento Português para que nos possa esclarecer e desde logo a primeira pergunta que queria deixar é, tendo em conta os múltiplos indícios de concessões pouco transparentes no setor do lítio em Portugal, que papel vai a Comissão assumir para garantir que no âmbito da sua estratégia industrial e de regulamentação de matérias-primas críticas, os contratos de exploração de lítio incluam obrigatoriamente cláusulas de transparência, de benefício nacional, claro, com valor acrescentado para o emprego e que não sejam objeto de negócios opacos, favorecedores de interesses privados e de capitais externos. Gostava de questionar também o Sr. Vice-Presidente acerca, então, do acesso ao financiamento para as pequenas e médias empresas. Muitos programas europeus são dominados por grandes multinacionais ou Estados com maior capacidade administrativa. Como é que a Comissão vai garantir que pequenas e médias empresas e microempresas portuguesas não ficam para trás no acesso a estes fundos? E se vão simplificar as candidaturas ou reservar cotas específicas para as pequenas e médias empresas de países periféricos. Bruxelas tem vindo também a impor uma avalanche de regulamentos, como a questão da transição verde, a transição digital, etc., que representam custos pesados, muito elevados mesmo, para as nossas pequenas empresas. Que medidas concretas vai tomar para reduzir a carga administrativa e eliminar requisitos desnecessários? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Faça favor.
Obrigado. Peut-être vous dire d'abord que sur les matières premières critiques, je reprends peut-être cette question, parce que j'ai fini par là la dernière, nous avons développé un label européen qui prend en compte dans les critères de labellisation de l'exploitation minière en Europe, un, la faisabilité à court terme, puisque nos objectifs sont, vous l'avez compris, urgents dans la période, et donc nous avons besoin de labelliser des mines de lithium, de graphite, de cobalt, qui puissent donner des produits rapidement avant 2030. Deux, l'acceptabilité sociale des projets, qui est important pour nous et qui va avec la faisabilité, y compris du projet. Trois, les questions environnementales et sociales, et notamment d'emploi, sont prises en compte. Et également les questions environnementales, je l'ai évoqué, et sociales, puisque vous le savez, dans tous nos téléphones, nous avons des terres rares. Elles sont probablement exploitées et extraites dans des conditions sociales et environnementales qui sont très différentes de celles de l'Europe à travers le monde. Et donc nous avons, nous, un standard qui est quand même très élevé de protection des travailleurs sur ce sujet-là. Tout ce paquet fait que nous déclenchons à partir de la labellisation, nous déclenchons y compris une aide financière. Ça peut être de la subvention, ça peut être de la garantie, et donc nous aidons le projet à émerger. Mais encore faut-il que le projet soit qualifié de faisable avec les critères que je vous évoquais, Madame la députée. Donc tout ça est pris en compte, mais il y a une part de responsabilité nationale dans la capacité à présenter un projet et des critères qui respectent les conditions européennes. Et après, ma responsabilité, c'est de mettre à côté des outils financiers pour pouvoir faire une réalité les projets d'extraction en Europe. Il y a des projets d'extraction, mais il y a aussi des projets de recyclage, et il y a aussi des projets de raffinage. Et je pense que c'est très important de ne pas voir uniquement la mine comme étant le seul élément de notre stratégie, mais à côté, il nous faut une usine aussi de raffinage et de production qui, elle, emploie des gens locaux, apporte de la croissance. Et donc, c'est tout un écosystème qu'il faut bâtir autour de notre indépendance sur les matières premières. Pour ce qui est des financements des entreprises et du fonds de compétitivité, vous l'avez compris, nous voulons fusionner 14 fonds dans un seul fonds. Garder beaucoup de transparence, puisque je suis convaincu que certains pays étaient devenus spécialistes d'un fonds en particulier ou d'une fenêtre en particulier dans l'obtention des fonds européens. Et vous avez totalement raison quand vous citez un certain nombre de grands pays qui ont des dispositifs qui ont, en réalité ont beaucoup poussé pour créer un règlement de gouvernance d'un fonds en particulier qui correspond à leurs besoins en particulier et aux entreprises d'une nationalité en particulière. Le fait de rassembler tous les fonds, d'avoir une seule fenêtre, de garantir la transparence du fonds de compétitivité, de donner accès privilégié aux PME et de les accompagner avec un même process en garantissant une forme de simplification est déjà une réponse dans l'effet de répartition géographique équitable que vous évoquez, je pense. Et donc, il ne faut pas voir la simplification et le fonds de compétitivité avec la fusion des 14 comme un risque, mais plutôt comme une opportunité pour les entreprises portugaises. Je le pense sincèrement. Puisque ça garantira la transparence de l'information et une seule fenêtre pour tout le monde. Et plus 14 ou 15 fenêtres différentes avec des gouvernances différentes qui sont des fois orientées pour répondre à des pays en particulier. Voilà. Donc nous avons beaucoup travaillé là-dessus et donc cette fusion est aussi une garantie pour cela.
Merci. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por saudar o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Stéphane Séjourné. Bem-vindo a Portugal e quero naturalmente saudá-lo também por aquilo que é o roteiro que está a fazer pelos diferentes Estados-membros para escutar os diferentes países, porque para se desenhar uma estratégia para a Europa e definir medidas para a Europa é de saudar essa atitude de estar no terreno junto dos países para conhecer as suas especificidades territoriais. E por isso esta era a primeira palavra de saudação. Venho falar-lhe de dois setores-chave para a Europa e para Portugal. O primeiro tem que ver com o setor têxtil, de vestuário e, se quisermos, também de confecção. Este, e que vai tocar num tema que o Sr. Vice-Presidente aqui hoje mesmo já falou. O setor têxtil e vestuário em Portugal é muito importante para o país, representa cerca de 8 mil milhões de euros de volume de negócio, dos quais 6 mil milhões de euros é de exportação e é essencialmente para a União Europeia. E é responsável por cerca de 130 mil postos de trabalho. E por isso fica bem claro aquilo que é a importância económica e social deste setor para o país. E neste âmbito, a Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e de Confecção, bem como a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, assinaram recentemente uma carta a pedir à Comissão Europeia, conjuntamente com outras associações congéneres, para que adotasse medidas concretas, urgentes, contra as plataformas asiáticas do comércio eletrónico das chamadas ultra fast fashion. Envolveu vários países e isto tem que ver por aquilo que é o impacto que está a ter no espaço europeu e nas empresas. Desde logo na perda de negócios, da produção europeia, menos receita fiscal, mais desemprego na União Europeia e perda direta de receita também aduaneira e de IVA. Isto mesmo, o Tribunal de Contas Europeu veio já alertar para este problema. Para além daquilo que são os temas de sustentabilidade ambiental, que também aqui estão presentes. E por isso, aquilo que lhe pergunto é precisamente que medidas é que a Comissão Europeia tem pensadas e desenvolvidas para fazer face a este fenómeno e proteger também as empresas europeias e promover a sustentabilidade económica, social e o emprego. E neste âmbito, a proposta de reforma de alfândegas poderá ser uma resposta, porventura, que o Sr. Vice-Presidente poderá aqui aprofundar e que há pouco nos deu conta. Segundo setor, que é também muito importante para a Europa e para Portugal, refiro-me à metalomecânica. A metalomecânica tem sido em Portugal o motor das exportações portuguesas e é responsável por mais de 30% das exportações ao exterior. É mesmo o campeão nacional de exportações, se assim quisermos. Mas a verdade é que este setor encontra aqui uma ameaça no que diz respeito às políticas de algum protecionismo definidas pela Comissão Europeia, no que diz respeito à proteção do aço. Isto de acordo com a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, esta Associação Nacional vem alertar para este problema e para o impacto fortíssimo que esta medida pode vir a ter, porque de acordo com a informação que dispomos, a Comissão Europeia pretende mesmo vir a duplicar em 50% aquilo que são as taxas neste âmbito. Para esta associação, e que nos merece toda a atenção, isto tem um impacto fortíssimo na indústria metalomecânica. Quem vai pagar isto é o consumidor final europeu, que terá produtos mais caros e pode pôr em causa a própria indústria metalomecânica. E para que tenhamos uma ordem de grandeza de quando falamos entre a indústria metalomecânica e siderurgia, a siderurgia europeia, como o Sr. Vice-Presidente sabe, representa cerca de 200 mil milhões de euros de faturação, e a metalomecânica representa 4 bilhões, mil milhões, se quisermos, de euros. É 20 vezes mais. E no emprego, falamos de 300 mil trabalhadores de siderurgia, que comparam com 13 milhões da metalomecânica. E, portanto, pegando um pouco nas palavras do Sr. Vice-Presidente, é este equilíbrio entre abertura e proteção que é essencial que aqui haja, para protegermos os setores importantes, como é o caso do setor da metalomecânica, na Europa e em Portugal. E é por isso que também lhe deixava qual é a sua visão e o que é que a Comissão Europeia tem pensado para este setor muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Faça favor.
Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Député. Vous posez exactement très bien la problématique sur le textile qui en réalité est très concurrencé par la Chine et notamment les petits colis qui arrivent. Pour vous donner une idée, nous sommes à peu près à plus de 4 milliards de petits colis qui sont arrivés sur le territoire européen. Quand je parle de petits colis, je parle de colis qui sont censés être à moins de 150 €. Et donc rentrer dans l'exemption des droits de douane européens. Je dis censé, puisque en faisant des contrôles, une grande partie de ces petits colis sont supérieurs à 150 €, mais déclarés comme en dessous. Ça nous pose le même problème que j'évoquais en introduction de contrôle de nos douanes. La projection pour 2026, c'est 6 milliards de petits colis qui vont arriver sur le territoire européen. Vous voyez que le phénomène est exponentiel et vient impacter totalement des industries comme le textile en Europe et notamment au Portugal. Je pense que si nous arrivons collectivement à supprimer l'exemption à 150 €, taxer éventuellement les petits colis avec forfaitaire, la proposition de la Commission étant de regarder autour de 2 ou 3 euros pour pouvoir créer une incentive à ne pas acheter ces produits et à les surenchérir. Produits qui, en plus, sont produits dans des conditions sociales et environnementales contraires aux droits de l'Union européenne. Et donc, ces produits n'ont rien à faire, en plus, en Europe. Tout ça pour vous dire que nous poussons très fortement pour durcir la réglementation, appliquer la réglementation, tout simplement, aussi, et encadrer les plateformes d'achat. Je pense que ça fait partie des discussions globales que nous avons aujourd'hui avec les Chinois dans le cadre de nos relations commerciales. Je pense droits de douane sur les voitures, matières premières, arrivée massive de petits colis en Europe, conditions d'investissement sur le territoire européen que j'évoquais pour les investissements chinois. Tous ces sujets doivent être traités ensemble et pas séparément. Et donc, c'est notre objectif de porter ce point-là le plus rapidement possible. Donc oui, nous activons les choses et plus les États membres au Conseil européen iront vite sur la réforme des douanes, plus vite la Commission pourra mettre en application ses propositions. Tout ce que je viens de vous évoquer, ce sont des propositions de la Commission européenne, de la part de mes services et de moi-même, mais nous attendons la validation et du Parlement européen et de la et du Conseil européen pour pouvoir appliquer ces propositions. Deuxième point sur l'industrie de la métallurgie en Europe et métallomécanique. Vous avez aussi un point. Nous essayons de trouver un équilibre entre garder nos industries sidérurgiques en Europe, puisqu'ils participent de la souveraineté européenne. On ne peut pas décemment laisser se fermer toutes les aciéries européennes. Ça fait partie de la souveraineté européenne et il n'y a pas de secteur de la défense sans acier, il n'y aura pas de secteur de l'automobile sans acier et il n'y aura pas non plus de futur pour les industries métallométalliques en Europe s'il n'y a pas d'acier non plus européen. Donc, notre premier objectif était déjà de sauvegarder nos outils de production en Europe. Si nous ne faisons rien, et si nous ne faisions rien dans cette période, il est presque évident qu'en 5 ans, on aurait divisé par plus que 2 les aciéries européennes. Néanmoins, je suis conscient des risques sur le prix, des risques de disponibilité et des risques aussi en termes d'exportation que ça peut provoquer pour les autres industries. C'est pourquoi nous avons quand même gardé des quotas d'importation d'acier qui correspondent à à peu près 18 millions de tonnes en Europe, et que c'est très important pour nous de travailler avec les États membres pour savoir quels sont les pays sur lesquels nous souhaitons garder des très bonnes relations, garder aussi des importations d'acier et des coopérations économiques dans le cadre de d'autres industries, et pour éviter les retaliation, donc les j'ai perdu le mot en français, mais les traducteurs le diront en portugais, de la part de nos compétiteurs et de nos partenaires économiques. Donc oui, j'ai lu un certain nombre de tribunes sur ce sujet ici au Portugal, et donc on va le prendre en compte dans notre réflexion pour éviter. Néanmoins, je vous le dis, le secteur de l'acier est un secteur très sensible. Les surcapacités chinoises arrivant sur le territoire européen étaient incontrôlables. Et en quelques années, nous aurions perdu totalement toute notre industrie de l'acier en Europe. Conscient aussi des impacts économiques sur les industries qui sont liées à tout cela, mais... c'est l'équilibre que je souhaite trouver et que vous avez bien compris dans mon introduction.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente da Comissão, é com muito gosto que o cumprimento, e se os senhores deputados me permitirem também, enquanto ex-presidente do Renew, do qual a Iniciativa Liberal faz parte no Parlamento Europeu, é com gosto que o cumprimento. E começaria por dizer que, de facto, a tarefa que tem em mãos é uma tarefa histórica. E porque neste momento tem de enfrentar uma série de atrasos e desafios que, na realidade, a Europa já enfrentava há muitos mais anos, mas que só agora se apercebeu porque, entretanto, o contexto geopolítico mudou. E um dos gráficos que mais me impressionou no relatório Draghi, que tem sido a bússola de referência para a Comissão Europeia nas reformas que agora pretende introduzir, é um gráfico que não é muito popular, ou não é dos mais conhecidos, mas que acho que é o mais ilustrativo, que é um que mostra, mostra o topo, quais são as principais empresas com maior capitalização de mercado ao longo dos anos. E nós vemos que, nesse gráfico, vemos que nos Estados Unidos esse conjunto de empresas vai mudando ao longo do tempo, nos últimos 20 anos, enquanto que na Europa se mantiveram essencialmente as mesmas, com algumas variações, mas essencialmente os mesmos setores. Portanto, nos últimos 20 anos, sobretudo automóveis e indústria química. E isso mostra que, de facto, que a Europa ficou presa num paradigma no qual era competitiva nos anos 80, nos anos 90, mas que, entretanto, com a viragem do milénio, mudou completamente e deixou de saber competir. Essas causas foram identificadas e foram bem identificadas no relatório Draghi, e agora é o seu papel assumir essa tarefa histórica de dar a volta a esse atraso crónico que temos na Europa e de finalmente relançar a economia europeia, aproveitando as melhores vantagens que tens. E era exatamente sobre isso que eu gostaria de fazer algumas perguntas e de levantar algumas dúvidas sobre se vamos conseguir fazê-lo, que é a pergunta mais importante que podemos fazer aqui. Será que é possível e será que conseguimos fazê-lo? Primeiro, temos a eliminação de barreiras no mercado interno, que de facto é um dos maiores problemas que temos, barreiras tarifárias e não tarifárias no mercado interno. Em abstrato é uma boa ideia, mas muitas vezes são os próprios Estados-membros que avançam com essas barreiras. E, portanto, tem de haver um combate político nacional para eliminar essas barreiras. A Iniciativa Liberal tem feito muito esse trabalho de encontrar barreiras injustas à entrada de bens de outros Estados-membros em Portugal. Há também a importante criação de novas fontes de financiamento para as empresas, nomeadamente a União de Poupança e Investimentos. Precisamos do mercado de capitais europeu e é incompreensível como esta discussão se tenha arrastado durante tantos anos, porque na realidade fala-se neste mercado de capitais há cerca de 15 anos, há muito tempo que isto é falado. Tem de acontecer agora, tem de avançar agora. Se não avançar agora, perdemos a nossa credibilidade sobre o empenho que temos de facto em enfrentar estes desafios. O 28º regime para as empresas é fundamental, como é fundamental, e agora passando aos desafios que nós temos, cortar na as regras excessivas que fomos impondo ao longo do tempo, pensando que isso não afetaria muitas empresas. Se olharmos para cada regra individualmente, ela parece sempre muito pequena. Mas quando juntamos tudo, acabamos a obrigar as empresas a ter que criar departamentos inteiros só para compliance. E isso não pode continuar a acontecer na Europa, e é uma pena que ainda existam muitas forças políticas na Europa que resistam a esta transformação. E foi exatamente isso que se viu no Parlamento Europeu há cerca de duas semanas, quando deram um sinal negativo relativamente ao ônibus de simplificação, que é um sinal importantíssimo que nós temos de dar para as empresas europeias. E, portanto, eu gostaria de perguntar se, relativamente ao objetivo que tem na sua carta de missão de redução dos regulamentos destas empresas em 25% para as grandes empresas e 35% para as pequenas empresas, se considera que vai conseguir ainda assim cumprir, apesar desses reveses. E, Sra. Presidente, se me permitir, só mais duas perguntas. Uma sobre os fundos, se não acha que ainda assim a criação destes fundos ou a continuação do desenvolvimento destes fundos também pode ser um problema ou pode ser um desafio para a economia, visto que depois há muitas empresas que se orientam em torno destes fundos e que basicamente vivem de caçar mais fundos europeus, perpetuando muitas vezes a sua falta de competitividade. E, finalmente, sobre a reforma que quer fazer à contratação pública na Europa, é muito importante que os requisitos by European, caso os venham, sejam dirigidos a setores muito específicos, estratégicos e estratégicos, porque se nós fôssemos generalizar um critério destes, arriscaríamos também a levar os Estados-membros a ter custos muito, muito acrescidos e depois também a criar indústrias domésticas que ficariam dependentes. Isto acontece nos Estados Unidos, ainda não acontece na Europa e queremos evitar que isso aconteça na Europa também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia. Faça favor.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Député, on me dit qu'il faut que j'accélère mes réponses, mais je vais essayer qu'elles soient aussi précises. D'abord, sur les barrières tarifaires, je l'ai dit, c'est une responsabilité collective. Et aujourd'hui, la question des barrières réglementaires, c'est à peu près l'équivalent de 50% de droits de douane entre nous sur les biens et à peu près 100% de droits de douane sur les services. Et donc si je factorise ces éléments-là, ça devient un problème très important à régler et un facteur de compétitivité très puissant pour les entreprises européennes. C'est une question de méthode et donc j'ai changé la méthode. Nous avons identifié les 10 barrières les plus importantes économiquement et je l'ai élevé au niveau politique. Et donc le sujet maintenant n'est plus traité par des administrations dans un sous-bureau, mais au Conseil européen avec les ministres de l'économie et de l'industrie et de l'économie et des finances. Donc je pense que c'est une meilleure manière d'avoir des résultats sur ce sujet. Sur les marchés de capitaux, ça arrive, puisque la proposition de supervision sera devant le collège des commissaires dès le mois de décembre, donc avant les vacances de Noël pour tout le monde. Et j'espère juste que cette proposition ne sera pas morte au mois de janvier. Et donc nous travaillons au mois de novembre pour justement travailler avec l'ensemble des États membres pour que, arrivée au Conseil, cette proposition ne soit pas mort-née. Donc c'est pour ça que ça prend un tout petit peu de temps. Nous savons ce que nous voulons faire. Nous voulons une supervision européenne des marchés de capitaux. Elle est bonne pour tout le monde. Certains pays s'y opposent très fortement encore. Il faut donner des garanties et encore convaincre politiquement. Et on prend encore un mois avec la commissaire Albuquerque, que vous connaissez bien ici, pour pouvoir convaincre l'ensemble des États membres. Sur la simplification, c'est plus une question maintenant politique que d'ambition de la Commission. Et donc il faut trouver des majorités au Parlement européen pour éviter l'épisode que vous avez mentionné vous-même. Cet épisode, il est déplorable, mais il démontre quelque chose. C'est que au moment où la Commission présente ses omnibus de simplification, j'entends les critiques sur le fait que ce n'est pas assez ambitieux, que ça ne va pas assez loin. Mais néanmoins, nous essayons de factoriser dans notre réflexion la faisabilité politique au Parlement. Et donc ce sont déjà des compromis que nous faisons entre nous à la Commission pour pouvoir faire passer les textes. Et donc maintenant, l'urgence, c'est de pouvoir faire passer les textes. Et donc je compte également sur l'ensemble des groupes ici au Portugal pour pouvoir passer les messages dans les groupes politiques au Parlement européen. Sur les fonds et sur la compétitivité, il y a un instrument que je souhaite privilégier dans le fonds de compétitivité, c'est la garantie. Et donc avec, d'abord parce que la garantie financière vous permet d'utiliser 1 euro d'argent public et d'avoir à peu près entre 15 et 20 euros d'argent privé. Et donc c'est la meilleure utilisation de l'argent public, la garantie, plus que de la subvention ou que de l'aide à la production ou quoi que ce soit. Donc dans le fonds de compétitivité, il nous faut utiliser l'instrument que beaucoup d'entreprises connaissent, qui est InvestEU, qui est un outil de garantie avec des banques publiques qui permet de viabiliser des projets et surtout de déclencher de l'investissement privé. Parce qu'on a besoin d'investissement privé. Et quand Draghi nous dit qu'il nous faut 800 à 1000 milliards d'investissements, c'est surtout de l'investissement privé qu'il nous faut. Donc le budget européen et le fonds de compétitivité doit servir à ça et doit être privilégié. Là, je compte également sur les parlementaires européens de vos groupes respectifs pour pouvoir pousser le fait d'avoir de l'investissement privé et donc d'utiliser plutôt de la garantie que de la subvention.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. E o último orador é o Sr. Deputado único do Partido JPP, o Sr. Deputado Filipe Sousa. Tem a palavra, faça favor. 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente Stéphane Séjourné. Permita-me, antes de mais, agradecer a sua disponibilidade e a sua presença neste diálogo com o Parlamento Nacional e dizer que o reforço da prosperidade e da estratégia industrial europeia é sem dúvida um dos grandes desafios do nosso tempo e a sua liderança tem sido fundamental para dar consistência a essa ambição que é comum a todos os Estados-membros. Contudo, gostaria de sublinhar um ponto que é essencial, que é a necessidade de garantir que essa estratégia é verdadeiramente inclusiva e coesa. Todos nós sabemos que a Europa da prosperidade não pode ser uma Europa de assimetrias e, neste contexto, as regiões ultraperiféricas, como a Madeira e os Açores, enfrentam fortes condicionantes estruturais específicas, nomeadamente no que diz respeito aos transportes, à energia, à logística e até mesmo até à dimensão dos mercados, que limitam, por um lado, a competitividade das empresas locais, apesar do seu enorme potencial ao nível da inovação e da sustentabilidade. E neste contexto, Sr. Vice-Presidente, deixava aqui duas questões muito rápidas, e partindo do princípio que a prosperidade europeia só é duradoura se for partilhada e equilibrada, e saber de que forma pretende a Comissão reforçar os instrumentos de apoio à industrialização e à transição energética e digital destas regiões ultraperiféricas. E, por outro lado, também, como pode garantir-se que estas regiões participam plenamente nas cadeias de valor europeias, beneficiando das oportunidades criadas pela nova política industrial? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Faça favor.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, j'aurais peut-être quelque chose en partage d'un point de vue de la culture politique entre les Portugais et le commissaire européen, enfin le vice-président de la Commission européenne français que je suis. C'est le réflexe des régions ultra-périphériques. Et donc, moi-même, dans mes autres fonctions, que ce soit au gouvernement français ou en tant que président de groupe au Parlement européen, j'ai souvent rappelé à mes collègues européens ce réflexe important, cette richesse aussi que constituent nos régions ultra-périphériques, et souvent le fait de ne pas les traiter de la même manière était aussi une force, et donc nous sommes en train d'en réfléchir plus globalement à une forme d'omnibus de simplification également pour pouvoir traiter différemment des gens dans une situation différente. Et je pense qu'une partie de l'acquis européen en termes de droit européen a souvent ignoré ou oublié la spécificité des régions ultra-périphériques. Donc le premier travail que nous devons faire collectivement, c'est de reprendre l'acquis européen et éventuellement de proposer un omnibus de simplification qui vient régler un certain nombre de problèmes. Le deuxième point que vous évoquez, ce sont les financements et l'intégration dans les chaînes de valeur européennes. Sur le financement, vous avez compris que le changement de logique de la Commission sur notamment la cohésion et puis les fonds et les enveloppes, ce qu'on appelle les enveloppes nationales, qui ne font plus apparaître des sous-fenêtres comme c'était le cas avant et qui donnent la responsabilité aux États membres de diviser et de faire apparaître les fenêtres eux-mêmes. C'est un débat qu'on a, ce n'est pour être totalement honnête avec vous, pas ma responsabilité au Collège des commissaires, mais néanmoins, je souhaite qu'on puisse avoir quand même une forme de transparence sur ce qui pourrait être donné, ou en tout cas alloué, ou qui pourrait correspondre aux régions ultra-périphériques dans le budget européen. On y travaille sur cette visibilité, et vous aurez probablement, et je vous invite y compris à auditionner mes collègues sur le budget ou sur la cohésion, et qui seront ravis également d'avoir un échange avec vous sur ce sujet-là. Dernier point, peut-être, la question des régions ultra-périphériques ramène également pour nous de comment on fait fonctionner notre industrie et nos chaînes de valeur là-bas, vous l'avez dit. Et nous devons avoir aussi une stratégie régionale pour ces régions ultra-périphériques, c'est-à-dire les intégrer dans leur écosystème économique régional, y compris pour des questions de coût de la vie là-bas et d'importation d'un certain nombre de matières. Et pour ça, c'est à la fois de la compétence nationale et donc du Portugal, et en même temps nous pourrons vous proposer un certain nombre d'outils à la Commission pour aller dans ce sens.
Bom, senhor, final não foi o último. Muito brevemente, então, senhor deputado Rui Tavares, em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra para questionar o senhor vice-presidente. Faça a favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Bonjour, monsieur le vice-président. Excusez-moi du retard. Je vais faire court, mas je vais faire en portugais ma question. Eu gostaria de perguntar, dentro do acervo de relatórios que nos últimos anos ajudaram a União Europeia a projetar o seu rumo, relatório Draghi, relatório Ministro e relatório Letta, queria focar a minha pergunta apenas sobre uma questão que é levantada pelo relatório Letta, que é o da quinta liberdade, ou seja, de uma liberdade de acesso à informação, liberdade de pesquisa e de investigação, que no fundo, de certa forma, podemos dizer que ela já está implícita nos próprios objetivos da União, que estão no artigo 3 do Tratado da União Europeia, mas que tem que ser materializada. E que, em meu entender, prejudica gravemente a Europa, tanto no plano da competitividade entre blocos, e blocos regionais e nações, como em termos da preparação do futuro. Dois exemplos muito breves. Por um lado, grande parte da investigação que é financiada por instituições europeias, seja da União, seja nacionais, pelo European Research Council, por universidades, por fundações para a ciência e para a tecnologia de todos os Estados-membros, ela acaba por, quando é terminada, ir para repositórios de literatura académica que são dominados por poucas empresas e empresas de fora da União. Em particular, empresas norte-americanas e empresas britânicas, como a Elsevier e outras. Isso prejudica, acima de tudo, os Estados-membros que têm menos financiamento para a investigação, onde as universidades e os centros de pesquisa não têm capacidade de pagar as assinaturas e as, digamos, as contribuições absolutamente extorsionárias que são praticadas por essas empresas e, portanto, prejudica o pesquisador académico e científico na União como um todo, mas sobretudo nos países mais frágeis. Por outro lado, a União Europeia produz, direto ou indiretamente, um acervo enorme de dados que acaba por ser utilizado de forma praticamente gratuita por grandes empresas tecnológicas. Estou a lembrar-me, por exemplo, de todo o acervo de tradução simultânea das instituições europeias, que depois foi utilizado pela Google e mais tarde por outras, para os seus projetos de inteligência artificial e de tradução simultânea. Tal como temos esse acervo de informação, temos muito outro nos nossos museus, nas nossas bibliotecas, nos nossos monumentos, que está à espera de ser digitalizado, está à espera de ser numerizado, como dizem em França. Isso deve ser um projeto da União para que esse acervo fique público e possa servir a utilizações que sejam dominadas pela União Europeia. Queria perguntar-lhe se há projetos nesse plano e, no fundo, o que é que a Comissão tenciona fazer para materializar e promover a quinta liberdade de que fala Enrico Letta no seu relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente. Faça favor.
Merci, Madame la Présidente. Bom, por cette dernière question, sujet imminemment intéressant et qui pose, vous l'avez très bien posé d'ailleurs comme problématique, la question à la fois de notre recherche, du lien entre l'industrie et la recherche. Nous n'avons pas trop de problèmes de recherche fondamentale en Europe. Nos labos fonctionnent très bien, nos labos publics, des recherche et des ruptures souvent sont, viennent d'Europe quand des nouveautés sont trouvées, quand nos scientifiques mettent des recherches scientifiques publiquement. Ce sont souvent d'ailleurs des recherches européennes. Mais nous avons un problème au moment de passer l'étape de la recherche à l'application et à la recherche appliquée, où une grande partie de notre industrie ne prend pas cette recherche, mais va être exploitée, et le scale-up se fait souvent aux États-Unis. Le paradoxe du sujet, c'est qu'il se fait aux États-Unis avec de l'argent européen. Et donc, nous exportons aux États-Unis notre idée, et nous exportons aux États-Unis notre capital, et donc, pour financer aux États-Unis la croissance des entreprises américaines. Je n'ai rien contre les Américains, au contraire, mais on n'est pas obligé non plus d'être totalement naïf. Et donc, ce sujet est très important. C'est pour ça que nous avons voulu que un horizon Europe, le programme de recherche européen, soit doublé. Il va passer de 100 milliards d'euros à 200 milliards d'euros. Parce que nous souhaitons garder les standards de recherche scientifique fondamentale et recherche appliquée les plus hauts possibles. On aura le même débat pour savoir, d'un point de vue géographique, où tout ça va. Je souhaite qu'on puisse, y compris, permettre d'avoir des éléments de cohésion dans Horizon qui permettent d'avoir une forme de répartition géographique qui soit équitable. Mais par contre, un des enjeux fondamentaux, un enjeu fondamental pour moi, l'enjeu fondamental étant de garantir aussi que nos idées, nos résultats de recherche soient opérationnalisés et industrialisés en Europe. Pour ce fait-là, il y a un sujet, c'est d'abord le marché des capitaux, et donc la première étape va être la supervision dès le mois de décembre au Collège des commissaires, et donc pour ça, il faut garder le capital en Europe. Et il y a un sujet culturel des entreprises aussi, de pouvoir intégrer dans leur chaîne de production ou dans leur recherche et de développement la partie de recherche appliquée qui doit nous permettre de garder en productivité également des standards assez élevés. L'Europe va perdre à peu près 2 millions de travailleurs par an à partir des années 2035-2040. Pour ça, il y a deux options pour garder notre niveau de vie. C'est soit gagner en productivité avec également notre stratégie d'investissement, de recherche et de développement derrière, ou faire venir des millions de travailleurs en Europe. Je pense que la version millions de travailleurs en Europe n'est pas très populaire aujourd'hui sur le continent européen. Donc il y a une option qui doit être creusée, c'est notre niveau de productivité. Et pour garder notre niveau de productivité et notre niveau de vie en Europe, on va avoir besoin de creuser sur ces sujets-là. Pour le reste, c'est un travail que je fais avec Mme Inzatou et la commissaire à la recherche également, pour pouvoir approfondir tous ces sujets, l'objectif étant la prospérité européenne à la base. Et donc nous proposons toute une stratégie pour garder nos compétences, faire des formations et avoir des éléments budgétaires dans la formation, et garder notre recherche et notre développement en Europe pour la partie industrielle. Je m'arrête là parce que je crois qu'on me fait des gros yeux, Madame la Présidente, et j'ai des rendez-vous importants également avec le gouvernement portugais sur tous ces sujets-là. Je vous remercie beaucoup pour vos questions, et merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer devant la représentation nationale portugaise.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Foi um gosto tê-lo na nossa comissão e foi muito útil esta troca de impressões. Eu sei que o tempo urge e a importância do seu portfólio ficou aqui também demonstrada pela participação de todos os grupos parlamentares e das questões que foram levantadas. E termino apenas com esta palavra. Prosperidade, Sr. Vice-Presidente, é disso que a Europa de facto precisa para que nós também tenhamos cidadãos mais desenvolvidos, mais empenhados na construção do projeto europeu e mais felizes. Tenho aqui uma pequena lembrança.